Merci Annabelle Grelier.
Qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial comme tous les vendredis, la conversation mondiale enregistrée exceptionnellement il y a 2 semaines, aujourd'hui, le pire est-il déjà arrivé ?
Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain.
Tous ceux qui sont aussi âgés que moi auront peut-être reconnu la voix de l'agronome René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. C'était en 1974 et il prédisait donc cet effondrement total de nos civilisations et de nos cultures pour la moitié de ce siècle, c'est-à-dire aux environs de 2050. C'était en 1974. Nous sommes en compagnie de Catherine Larère. Bonsoir Catherine Larère.
Bonsoir.
Vous êtes avec votre mari Raphaël Larère, auteur du « Pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste qui vient tout juste de paraître à Premier Parallèle. Et avec vous, pour en discuter dans cette conversation mondiale, le principe étant de faire dialoguer des gens venant de différents pays et de la France, eh bien Fabienne Scheiler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc auteur au Seuil, dans la collection Anthropocène, de la fin de la méga-machine sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement. Alors, ce terme de l'effondrement, on l'entend depuis longtemps, Catherine Larère, vous en faites un peu l'historique avec Raphaël Larère, dans Le pire n'est pas certain. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il existe aux États-Unis, puis ensuite en France. On imagine effectivement que nos cultures, civilisations, sociétés vont peut-être un jour s'effondrer et de plus en plus près.
Alors effectivement, on peut remonter au début de ce qu'on pourrait appeler la globalisation de la crise environnementale, les années 70, hein, et quand paraît, entre autres choses, en 1972, le rapport Meadows, qui est commandé par le Club de Rome à des ingénieurs du MIT, et qui le rapport qui s'appelle Halte à la croissance, et qui prévoit si on ne limite pas la croissance exponentielle, aussi bien économique que démographique, que des pollutions qui est en cours, on va à l'effondrement. Donc on peut le voir aussi avec René Dumont qui peu après va écrire L'utopie ou la mort. Hein, et, bon, il tourne beaucoup sur la démographie, sur la faim dans le monde. Donc on peut dire que la crise environnementale globalisée, parce qu'il y a toujours eu des problèmes environnementaux, mais globalisée, arrive avec une perspective d'effondrement.
Simplement, ça n'est pas toujours le même objet qui sert de support à cette crainte de l'effondrement, tel que vous le racontez dans Le pire n'est pas certain, Catherine Larère. Ça peut être les manipulations biologiques, par exemple, ou génétiques, ça fait partie des choses que l'on peut craindre. Ça peut être effectivement la question du climat, ça peut être aussi la faim dans le monde, comme le pensait René Dumont. Enfin, disons qu'il y a à différents supports à cette crainte de l'effondrement.
Alors, ça peut être, rajoutons, la pandémie.
Bien sûr.
qui intervient très vite. Il y a différents supports, mais ce qui va s'imposer un peu plus tardivement sur la question de l'effondrement, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler une logique de l'effondrement, c'est-à-dire un enchaînement de conséquences dans un système complexe qui va mener à l'effondrement. Et là, je pense que le nom qu'il faut citer, c'est celui de celui qui introduit le mot en anglais, hein, collapse, effondrement, c'est Jared Diamond.
Mm-hmm. Fabienne Scheiler, le livre que vous publiez en français, donc dans la collection Anthropocène au Seuil, un pour sous-titre sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement. Alors cet effondrement, il est lent, il est rapide, puisque vous faites un travail d'historien aussi en remontant très loin dans le temps jusqu'à l'Empire romain et en faisant suivre effectivement tous les siècles jusqu'à aujourd'hui pour imaginer ce que l'on a créé et qui peut-être va conduire à cet effondrement si on en fait pas, si on ne fait pas attention, c'est-à-dire ce que vous appelez la méga-machine.
Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le titre de la livre de Catherine Lerer. Le pire n'est pas certain. Le collapse, l'effondrement n'est pas certain, mais possible. Et depuis le rapport Meadows, on a appris beaucoup plus sur le système climatique, par exemple. Et on sait que si on dépasse les 2 degrés de réchauffement, ce qui est fortement possible, avec l'accord de Paris, on est sur une voie vers 3 à 6 degrés de réchauffement. Alors, il y a des cascades de changements drastiques dans les systèmes climatiques, par exemple, le niveau de mer va se lever, etc., des régions entières. Il y a plein d'études sur cela. En Afrique, au Moyen-Orient, deviennent inhabitables, probablement. Alors, il faut se demander, pourtant, qu'est-ce que ça veut dire effondrement, hein? Alors, il y a des systèmes sociaux, par exemple, l'Empire romain, qui se sont effondrés à un certain point, mais pendant des siècles. Hein, mm-hmm. Et l'effondrement d'un système social n'est pas forcément l'apocalypse. Hein.
Parce que de ce système social, quelque chose d'autre va sortir, va naître, mais simplement ouais. Avec un long temps entre l'effondrement d'un côté et la création de quelque chose de neuf ensuite.
Ah, absolument. Mais la situation qu'on a maintenant est nouvelle dans l'histoire humaine. Il n'y avait aucune civilisation jamais qui a pu créer plusieurs méthodes d'anéantissement. C'est d'abord la guerre nucléaire depuis 1945.
C'est vrai qu'on l'avait oublié, la guerre nucléaire.
Oui,
ça faisait partie, ça, effectivement, des craintes de l'après-Seconde Guerre mondiale, bien
ouais,
sûr.
Oui, il y a plusieurs méthodes maintenant. Et il faut se demander, et c'est le cœur de mon livre, pourquoi précisément cette civilisation qui est mise en scène souvent comme la porteuse des Lumières, etc., la meilleure civilisation qu'on a jamais eue. Pourquoi cette civilisation, précisément, a créé ces méthodes d'anéantissement? Et c'est un livre d'histoire, bien sûr, qui essaie de tracer les structures qui nous ont amenés à cette situation assez dangereuse.
Alors, on comprend bien que vous êtes sur des positions qui sont un peu différentes, Catherine Lerer et Fabienne Scheidler, puisque vous faites non pas l'histoire de cet effondrement en cours, comme le fait Fabienne Scheidler, mais vous faites l'histoire des discours sur l'effondrement avec Raphaël Lerer, c'est-à-dire vous essayez de comprendre ce qui a pris notre culture ou notre civilisation occidentale depuis maintenant une cinquantaine d'années pour avoir créé ce discours sur l'effondrement, de l'avoir imaginé et imaginer une fin du monde possible, dont vous dites d'ailleurs que certains se régale un peu de l'imaginer, parce que ça pourrait d'une certaine façon être une sorte de sommet de ce qu'ils ont imaginé, c'est-à-dire que tout va s'effondrer, tout va s'arrêter, c'est la fin du monde, et que ils seraient ainsi confortés dans leur propre idée que c'est possible.
Alors oui, on vient de le dire, la question environnementale au niveau global arrive avec une perspective d'effondrement. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la même perspective qui se maintient d'un bout à l'autre. D'une part, entre, disons, 1972 et 1992, le sommet de la Terre de Rio, comme la connaissance des problèmes se précise, la perspective de l'effondrement recule au fur et à mesure qu'on essaie d'élaborer des réponses. Il y a ça. Et ensuite, ça va se reprécipiter quand le changement climatique s'ajoutant, on se dit que on va peut-être à un effondrement global. Donc c'est pas toujours du même effondrement, et surtout, et c'est ça qui fait notre intérêt, on ne pense pas de la même façon la possibilité, ou plutôt la probabilité de l'effondrement. Alors je dirais que l'effondrement global est possible au sens où il est pas totalement impossible, il est pas totalement contradictoire. Il est pour nous extrêmement peu probable. Mmh. Mais je dirais qu'il y a trois façons de se référer à l'effondrement. Il y a ce que donne le rapport Meadows, c'est une perspective lointaine. Finalement, c'est une façon de focaliser l'attention sur le point où on peut arriver. Il y a un deuxième temps qui est bien mis en place par des gens, alors des philosophes allemands, à moitié allemands, puisqu'ils ont fui l'Allemagne nazie, comme Günther Anders ou Hans Jonas, et tels qu'ils sont repris en France par Jean-Pierre Dupuis, où l'effondrement est quelque chose qu'on peut éviter. Et je pense que vous êtes là-dedans.
Et qu'il faut éviter, d'ailleurs.
Et qu'il faut éviter. C'est qu'il faut anticiper.
Le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis.
Il faut l'anticiper pour mieux l'éviter. Et puis, il y a la dernière vague, dont vous ne faites pas partie, à mon avis, qu'on a en France avec Servigne, Cochet, où il est inévitable.
Inévitable et parfois, et vous le dites avec un peu d'ironie, un peu jouissif et un peu espéré. Fabien Scheidler, est-ce que vous êtes d'accord sur cette façon de classifier que vient de présenter Catherine Larère, ceux qui pensent à
l'histoire ? Je crois d'abord qu'il faut distinguer deux choses. La pensée apocalyptique, qui est très vieille, et j'écris dans mon livre sur cela, sur la naissance de la pensée apocalyptique.
Oui, c'est un des chapitres très intéressant d'ailleurs, je trouve. Ouais.
Oui, il y a plus de 2 millénaires et des scénarios très concrets qu'on a aujourd'hui. Par exemple, quand les glaciers des îles Malaya se fondent, alors 1,5 milliard de personnes n'ont plus d'eau dans la saison sèche en Inde, en Chine, etc. Et là, c'est grave. Il faut se rendre compte aussi du fait qu'il n'y a pas de système éternel. Pourquoi le capitalisme devrait être éternel, comme l'a dit Francis Fukuyama à la fin de l'histoire? Bien sûr, ça n'existe pas. Il y aura d'autres formes d'organisation humaine, espérons. Oui. Espérons. Et alors, je crois que la collapsologie a quelque chose à voir avec le fait que nos gouvernements ne sont pas été capables à changer de cap depuis le rapport Meadows. Parce qu'on avait 50 ans de discussion sur l'environnement, sur le climat, et maintenant, presque rien n'a changé fondamentalement. Et ça, c'est une frustration énorme.
Et pour tous ceux qui voudraient s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire, Fabien Scheidler, sachez que nous avons une conversation mondiale. Vous avez eu la gentillesse de nous fournir un texte formidable pour la conversation mondiale, puisque nous accompagnons ces émissions de textes, effectivement, qui sont publiés sur le site de France Culture. Il y en a 76 maintenant à ce jour, autant que je me souvienne, ou 77, et vous êtes le 77e texte. Et vous y condensez ce que vous dites dans votre livre, La fin des méga-machines, c'est-à-dire, il y a cette question du capital, il y a ces questions de la privatisation qui vous intéressent, mais de la façon dont l'État s'est adossé au capital, qui, selon vous, est d'une certaine façon la mécanique infernale dans laquelle on est entré et qu'il faut absolument se permettre de dissocier, c'est-à-dire l'argent d'un côté, l'État de l'autre, et les deux fonctionnant ensemble, c'est ce qui nous conduit, selon vous, à la catastrophe, et il faudrait trouver des moyens pour pouvoir séparer tout cela.
Oui, il faut se rendre compte que les 500 plus grands groupes du monde contrôlent à peu près 40% de l'économie globale et 2/3 du commerce global. Et ce sont des machines qui n'ont qu'un but, les sociétés par action, d'augmenter l'argent. Et pour cela, il faut transformer la nature en marchandises et il faut croître. Le système doit croître, sinon il ne peut pas fonctionner. Alors, l'État joue un rôle crucial dans cela. On le voit dans la crise actuelle, par exemple. Mm-hmm. Il y a des subventions énormes pour ces groupes par l'État. Air France a été sauvée, etc. Mais c'est pas seulement dans les crises. Le Fonds monétaire international estime que les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, sont subventionnées par 5 billions de dollars chaque année. C'est-à-dire, les contribuables financent la destruction de la planète. C'est pas les marchés en tant que tels, c'est l'État avec les grands groupes. Et alors, il faut, comme vous avez dit, il faut dissocier l'État des grands groupes, du capital, pour que l'État travaille pour le bien commun.
Et pourtant, tous ceux qui travaillent sur cette question de l'effondrement, de la collapsologie, Catherine Larère, que vous présentez dans votre livre « Le pire n'est pas certain », eh bien, pour certains d'entre eux, cet État, il n'a pas besoin d'exister. Par exemple, vous dites et vous affirmez avec Raphaël Larère, on a besoin d'État, sans État, pas d'hôpitaux, pas de chômage partiel, pas de maintien des services essentiels, en particulier dans la crise que nous sommes en train de traverser. Je pense qu'il y a une question, effectivement, qui est intéressante entre vous deux à mettre au cœur de la discussion, c'est cette place de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait de cet État tel qu'il a été construit patiemment depuis des siècles et de ses possibilités justement d'agir ou au contraire de contraindre soit les puissances financières, soit les citoyens eux-mêmes pour éviter l'effondrement à venir.
Alors, je précise un peu ce que nous disons. Nous disons effectivement que l'État reste une instance stratégique, ce qui ne veut pas dire que nous avons une sorte d'admiration
ou de mystique de l'État.
Une mystique de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec Fabien que l'État n'est pas opposé au marché. Il en est le corrélat nécessaire. Hein. Simplement, si on prend l'exemple de la pandémie. S'il n'y a pas eu d'effondrement à proprement parler, hein, Yves Cochet, collapsologue en chef, définit l'effondrement comme l'arrêt des services de base.
Yves Cochet, il faut préciser que c'est un ancien ministre de l'écologie, ancien leader des Verts, justement.
Et donc, cet effondrement des services de base n'a pas eu lieu. Et s'il n'a pas eu lieu, c'est que des services étatiques ont tenu. Mais ils ont tenu. Parce que ceux qu'on a appelés en France les premiers de corvée, c'est-à-dire ceux les infirmiers, le personnel médical, l'approvisionnement, etc., a tenu. C'est-à-dire que nous disons, on peut pas se passer complètement d'État, mais il faut que ça soit un État sous contrôle démocratique.
Fabien Schaeffler.
Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire, que l'État doit travailler pour le bien commun. Et au début des temps modernes, au début du capitalisme, l'État était une institution presque purement militaire. Hein. C'était les mercenaires, les armes à feu, etc.
Et depuis, tout un chapitre effectivement sur la question effectivement de la naissance du complexe militaro-industriel.
Oui.
Et les Grecs quasiment.
Ouais. Oui. Et le capitalisme est lié aux armes à feu parce que les souverains avaient besoin de beaucoup d'argent pour acheter les mercenaires et les armes à feu, et ils ont emprunté l'argent des marchands et des banquiers. Alors le capital et les États se sont développés d'une manière coévolutive. Et il faut dissocier alors l'État du militarisme et du capital. Et ce processus a commencé avec la Révolution française, bien sûr. Alors l'idée que l'État doit servir le bien commun, et aujourd'hui on a un État mixte qui travaille pour le capital, qui travaille pour le militarisme, mais aussi pour le bien commun. Il faut aller dans la même direction depuis 200 ans dans les luttes sociales pour que l'État devienne une institution purement dédiée au bien commun.
Catherine Larrère, ce qui est très intéressant, et je pense que ça vous a conforté dans le propos de votre livre Le pire n'est pas certain, c'est que ce que fait Fabien Schaeffler, c'est établir un récit. Et vous dites en fait, nous avons besoin de récits. Alors il y a le récit des collapsologues qui est une accumulation de faits qui vont dans le sens justement de ce qu'ils espèrent ou qu'ils imaginent être la fin du monde possible et donc qui pourrait nous toucher tous. Et vous dites, et tous les deux vous parlez de cette question du récit. J'aimerais vous entendre sur cette question-là, Catherine Larrère.
Alors nous avons besoin de récits parce que le récit c'est l'instrument du passage à l'action. C'est la façon dont on peut se représenter l'action, dont on lui donne sens. C'est ce qui permet d'échapper à l'enchaînement nécessaire et de représenter la possibilité d'une action possible. Je crois que là-dessus, on est parfaitement d'accord. Je crois où on est en désaccord, ou en tout cas on peut discuter, c'est que nous mettrions récit au pluriel. C'est-à-dire on se méfie énormément du récit unique et global.
Alors que à la page 451 du livre de Fabien Schaeffler, La fin de la méga machine, il y a la quête d'un récit commun. Et qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Schaeffler ?
Oui, bien sûr. Et les récits communs, les grands récits sont problématiques. C'est très clair.
On a passé beaucoup de temps à les combattre.
Ah oui.
En particulier dans le deuxième XXe siècle, on a passé beaucoup de temps à combattre ces grands récits communs. Donc,
absolument.
Pourquoi en recréer un, justement ?
Oui, d'abord, mon livre est un autre récit de l'histoire, mais c'est pas une histoire mondiale. De mon avis, il n'y a pas d'histoire mondiale. On a toujours un point de vue. Et ma question est, comment est-ce qu'on est arrivé dans les crises globales ? Qu'est-ce qui sont les structures ? Et comme ça, c'est une histoire de notre civilisation, d'un certain point de vue. Et comme ça, il faut un récit, il faut aussi des récits en pluriel. Mais pour agir, il faut, de mon avis, un récit qui peut lier des récits différents. Par exemple, dans le processus des forums sociaux mondiaux, on avait l'idée que on peut il faut pas un récit central, mais il peut avoir un champ où on se met d'accord pour les luttes à venir. Et c'est ça qu'il faut. Il faut une vision pas concrète comme le communisme de Lénine, par exemple. Mm-hmm. On peut pas dessiner un nouveau système sur le papier et parce que c'est un processus hyper complexe et non linéaire, un changement social. Mais il faut avoir des idées centrales, comme par exemple le bien commun, le rôle de l'État, etc. Et pour cela, il faut une certaine convergence des mouvements écologiques et sociaux. Et ça veut pas dire qu'on peut imposer un récit, mais on doit y avoir une convergence.
Catherine Larrère.
Oui, je crois que mon problème, vous, avec ce que vous présentez, vous dites très bien au début de votre livre que vous ne prétendez pas faire une histoire universelle. En ce sens que vous remontez pas à avant, disons, c'est pas une histoire anthropologique qui remonterait à Homo sapiens.
Voilà.
Et puis vous venez de le dire aussi, c'est une histoire du capitalisme ou de l'Occident, c'est pas une histoire mondiale. Il me semble quand même, moi c'est ce que je vous dirais, que vous inversez le récit édifiant des Lumières, de l'affranchissement, du progrès, de la liberté, de la paix, et vous faites un récit de la guerre, de la destruction, du contraire du progrès, mais vous l'inversez, c'est-à-dire que vous n'échappez pas à ce qui est le tort de l'Occident, pour moi, philosophiquement, qui est de se prendre pour l'universel. Et donc,
ou universel
voilà.
Du mal.
Oui. Or moi je pense qu'il n'y a pas de bien commun. C'est un horizon lointain, mais il y a toujours une ambiguïté. Ça se divise en deux toujours.
Fabienne Schaller.
Oui, mais je suis pas d'accord que c'est seulement l'inverse du récit, disons mainstream, parce que je prétends pas que c'est une histoire universelle. C'est une histoire de notre civilisation du point de vue de ceux et celles qu'on entend rarement, parce que l'expansion de ce système a été un grand succès pour, disons, 20%, 30% de la population mondiale. Ça a apporté de grandes richesses, surtout en Europe et en Amérique du Nord.
Vous y assistez beaucoup sur cette question-là, effectivement, sur le fait que les autres cultures n'en ont pas bénéficié, ou elles ont été même soumises au récit occidental.
Oui, et c'était l'expansion du capitalisme, de la méga-machine, a été une histoire génocidaire dès le début, hein, après Colomb, les génocides aux Amériques, en Afrique, en Asie. Et pour cela, c'est une histoire d'un certain point de vue. Et c'est ce que j'ai écrit dans l'introduction. Et de ce point de vue, on voit que les forces destructrices qui menacent l'avenir de l'humanité ont été là dès le début. Il faut changer ces structures. C'est ça le récit.
Vous écoutez Le Temps du Débat, une émission spéciale comme tous les vendredis, la conversation mondiale entre Catherine Larrère, philosophe, dont le dernier livre avec Raphaël Larrère s'intitule « Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste », et Fabienne Schaller, journaliste, dramaturge allemand et auteur de « La fin de la méga-machine sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement au seuil ».
France Culture, Global Serum, Laïc Debatem.
Il y a un sujet que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, Catherine Larrère, c'est d'essayer de comprendre cette fascination pour l'effondrement. Vous y travaillez, vous dites, qu'est-ce qui explique que le mouvement écologiste, auquel vous participez de plein droit depuis très longtemps maintenant, vous y avez beaucoup travaillé en tant que philosophe, ce mouvement écologiste sur la crise environnementale, il est fasciné par cette idée de la fin. Et vous essayez de comprendre qu'est-ce qui passionne tant les écologistes et en quoi cette fascination est mortifère peut-être pour ce mouvement écologiste.
Alors, je crois que je reprendrai justement ce que disait Fabien et dans son chapitre sur l'Apocalypse, ça naît de ces représentations de fin du monde qui sont effectivement très anciennes, et surtout peut-être dans la religion chrétienne, naissent de l'impuissance. Et je pense que cette hantise de l'effondrement naît de ce qui apparaît à beaucoup comme un constat d'impuissance, hein, impuissance des politiques.
Vous dites d'ailleurs que les vieux militants du premier écologisme, du temps de René Dumont, dont on peut parler, c'est-à-dire par exemple, vous citiez tout à l'heure Yves Cochet, eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à changer le monde que d'une certaine façon, pour certains d'entre eux, ils sont passés à cette thèse collapsologique.
Voilà, et on dira Nicolas Hulot a démissionné, donc personne ne peut rien. Impuissance des militants, hein, les mouvements militants qui sont anciens, et dans cette, une façon de se représenter cette impuissance, c'est de se dire, ben voilà, le monde va s'écrouler. Alors, rajoutons ce qu'avait dit l'Américain Frederick Jameson, que c'est plus facile de s'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Hein. Donc, c'est une impuissance redoublée.
Fabien Scheiber. Oui, je suis absolument d'accord. Je pense qu'il faut absolument sortir de la pensée apocalyptique, parce que c'est une pensée née de l'impuissance. Et alors, normalement, on a du mal à s'imaginer autre chose que l'apocalypse. Aussi, dans les films de Hollywood, on a une obsession à l'Occident de la fin du monde, et de continuer de la même façon qu'aujourd'hui. Je crois qu'il faut une troisième voie, et c'est vraiment changer les structures fondamentale de notre civilisation. C'est possible.
En ouverture de dernier chapitre sur les possibilités justement de votre livre, dans la fin de la méga-machine, vous dites les seuls outils qui pourraient maintenant nous être d'une aide quelconque n'ont jamais été prévus, c'est le frein et la marche arrière.
Oui, c'est vrai. Il faut se rendre compte que le système tel qu'il est, il est construit d'une façon qu'il doit croître tout le temps. Alors, on peut remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, c'est absolument nécessaire, mais il faut sortir du dynamisme de la croissance. Et pour cela, il faut changer les institutions économiques. Il faut remplacer, par exemple, les sociétés par action par des entreprises. Des structures économiques qui travaillent pour le bien commun. Et c'est possible. Il y a des coopératives, il y a des entreprises municipales, etc. Et là, l'État joue un rôle crucial pour changer de cap.
Mais pour cela, Catherine Larère, il faudrait croire à la possibilité d'alternatives. Or, dans le discours collapsologique, tout le monde ne croit pas à la possibilité des alternatives.
Alors, je pense que là, il faut introduire un autre élément qui est le passage du singulier au pluriel. Mmh. Hein, c'est-à-dire, si on s'en tient au niveau global, c'est absolument effrayant et complètement déprimant. Hein. Si on ajoute d'un côté les chiffres de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de, comme vous dites, une croissance exponentielle, la démographie, etc., etc., et qu'on met en regard ce qu'on fait, bah,
vous voulez dire que
il y a quoi
la conférence de Paris n'est pas rassurante dans ce sens-là.
Alors, je pense qu'il en faut. Oui. Hein, je pense qu'il en faut, mais ça suffit pas. Tandis que si on passe au pluriel, c'est-à-dire si on sort de la vision globale, eh bien, on se rend compte qu'il y a des succès. Hein. Nous sommes en France, donc je citerai simplement le succès de Notre-Dame-des-Landes, hein. L'aéroport qui aurait été une catastrophe. Au niveau de l'augmentation justement du trafic aérien, ouais. N'a pas lieu. Et il y a des tas de victoires. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut des alternatives, mais pour ça, il faut abandonner et le regard global et le récit global.
Fabienne Scheiber.
Oui, il faut abandonner aussi l'idée que soit on peut sauver le monde ou soit on a l'apocalypse.
Oui.
Parce que même si on arrive à 3 degrés de réchauffement, 4 degrés, on aura un monde très très dur. Mais même dans un tel monde, il faut réfléchir comment organiser la solidarité, par exemple pour les gens à Bangladesh qui vont perdre un tiers de leur pays. Hein. Il faut organiser cela d'une manière que ces gens peuvent venir en Europe et ailleurs pour trouver une nouvelle vie. Hein. Et alors, il y a plein de choses à faire. Et il faut lutter, je suis absolument d'accord qu'il faut s'occuper des succès. Alors, il faut lutter pour chaque pourcentage de réchauffement qu'on peut éviter, parce que le monde de 3 degrés est radicalement différent d'un monde de 4 degrés. Hein. Alors les luttes vont la peine, en tout cas, c'est pas l'alternative, l'apocalypse où on reste dans ce qu'on fait maintenant.
Et d'ailleurs, dans le chapitre possibilités, vous avez des propositions.
Oui.
Dans les cas, vous dites, il faut couper les vivres aux multinationales, il faut imaginer la décroissance du complexe métallurgico-fossile. C'est vachement facile à faire, ce que vous demandez. Enfin, il faut reconvertir les infrastructures, il faut se préparer à la prochaine crise financière, il faut poser la question de la propriété. Il y a un autre Allemand très célèbre qui l'avait posé au 19e siècle. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, etc., etc. Fabien Schaeffer.
Oui, mais il faut se rendre compte qu'en Europe, on a eu une histoire révolutionnaire. Hein. C'était pas seulement la Révolution française, il y avait plein de révolutions. On tente d'oublier cela et on tente de croire que oui, l'histoire, c'est que des changements petits. Mais à vrai dire, on aura des crises de plus en plus profondes. C'était la crise financière 2008, c'est la pandémie. Il y aura d'autres crises plus graves, écologiques, etc. Et dans chaque crise, il y aura des bifurcations. On peut faire des choix. Et là, les mouvements sociaux et écologiques jouent un rôle crucial.
Catherine Larrère.
Oui, là encore, je pense que ça suppose qu'on abandonne la vision globale et aussi un peu la vision alternative. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est la raison de notre livre. Hein. Il n'y a pas à choisir entre l'effondrement ou la gestion ordinaire qui ne fait que précipiter l'effondrement.
Et puis, tout compte fait, ce que dit Fabien Schaeffer.
Mais ça suppose qu'on voit où la politique se fait, et elle se fait localement.
Et vous
si
êtes...
on admet que le local, c'est pas forcément le tout petit.
Oui, hein, oui.
Les instances mondiales ne sont pas des instances politiques.
Oui, vous insistez beaucoup sur ce qu'on appelle l'agency, en prenant un terme américain qui veut dire la capacité d'agir. Vous dites, en fait, nous avons la capacité d'agir, donc il ne faut pas se désarmer d'une certaine façon, Catherine Larrère.
Et c'est pourquoi il faut regarder ce qui se passe. Et il se passe des quantités de choses. Hein. Nous référons à l'économiste Joan Martínez Alier qui, à Barcelone, avec son équipe, dresse ce qu'il appelle un atlas de la justice environnementale, ouais, où il recense toutes les luttes, et il y en a partout dans le monde, y compris en Chine, qui sont des luttes dans les milieux de vie. Et ce à quoi nous appelons, c'est... ce récit global que vous faites, il existe, et je ne dis pas qu'il est mauvais à faire, mais de développer l'histoire de cet atlas, l'histoire, oui, de la multiplicité des luttes.
Oui, absolument. Il y a plein de choses à faire au niveau local. Par exemple, transformer les villes, hein, parce que on va vivre dans les villes. Et par exemple, sortir les voitures des villes, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. À Grenoble, ils ont commencé, etc.
Et ici, on a commencé aussi à Paris.
Paris aussi, on a commencé, mais il y a plein de choses à faire. Mais je crois un certain point, ces luttes locales vont aboutir à un nouvel ordre mondial. Parce que c'est le dernier changement radical de l'ordre mondial, c'était l'accord de Bretton Woods en 1944. Mm-hmm. Mais c'était dans le cadre du système capitaliste.
Monétaire, et du système monétaire en particulier.
Oui, un autre système monétaire, une structure keynésienne de gestion, etc. Et ça va venir un certain jour, dans 10 ans, 20 ans, on ne sait pas comment ça se fait, mais les luttes locaux vont déterminer aussi en quelle direction cette nouvelle ordre mondiale va aller. Et je suis tout à fait d'accord que probablement on n'aura pas un système mondial dans l'avenir. Probablement on aura des systèmes divers dans les pays et d'un continent différent. C'est fortement possible.
On sait combien la pensée des philosophes et activistes américaines sur la question du genre nous a habitués à la notion de trouble, Catherine Larrère. Et vous dites, en fait, il faut s'intéresser à ce que dit la philosophe Donna Haraway quand elle dit, en fait, il faut rester dans le trouble. Staying in the trouble. Rester avec le trouble. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, justement, de rester avec le trouble entre, justement, les solutions technicistes En gros, si la Terre se réchauffe, pourquoi pas inventer une fusée qui va pousser la Terre en dehors de son orbite pour pouvoir
la
remettre dans le bon sens, par exemple. Ça a été proposé par certains, il faut le dire. Ouais. Et d'autres qui disent, les défaitistes, le pessimisme, qui dit tout est foutu, il est trop tard et l'apocalypse est là. Qu'est-ce que ça veut dire, le trouble, dans la pensée de Donna Haraway? Pourquoi ça nous serait utile pour penser ce qui nous arrive ces temps-ci?
Bien, pour pas se projeter vers un avenir possible, qu'il soit bon ou mauvais, pour se dire qu'on est dans un monde dur, on est dans un monde difficile, de trouble, hein, et ce monde est un monde où les gens agissent, et ce qu'il nous faut, c'est essayer de comprendre comment les gens agissent, essayer de les aider, et au lieu de faire des grands modèles internationaux, et vous avez cité Donna Haraway, et nous la citons, mais j'en citerai quelqu'un d'autre, qui est Anat Singh, hein, qui est une anthropologue, et qui est sur la même longueur d'onde, si je peux dire. Et alors, c'est d'ailleurs son livre qu'il a fait connaître en France, a été traduit par Le champignon de la fin du monde. Mmh. C'est une histoire de champignons que les Japonais aiment beaucoup et qui vont chercher, qu'on va chercher dans l'Oregon, dans l'Ouest américain. Mais en fait, ça devrait s'écrire comme le champignon du bout du monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas du tout une vision apocalyptique. Et ce qu'elle montre, il y a que dans les ruines du capitalisme, c'est pas l'effondrement global. C'est dans cette espèce de capitalisme effondré, mais il y a des choses qui se font. Je crois que c'est ça, staying with the trouble.
Oui, Fabien Scheidler.
Oui, absolument. Et on n'a jamais vécu dans un système total et absolu, hein. Alors, il y a le système global capitaliste, mais il y a plein de niches, il y a plein d'autres choses qui se passent et il faut élargir ces espaces-là et dans les crises, c'est bien possible.
Vous qui voyagez beaucoup dans le monde, Fabien Scheidler, et on a la chance de vous avoir au micro aujourd'hui pour la fin de la méga machine, je me suis posé cette question, pourquoi y aurait-il, et ça a été noté tout à l'heure par Catherine Larrère, une spécialité germanique ou allemande à cette idée de fin du système. On citait Hans Jonas, on a cité Günther Anders, etc. Qu'est-ce qui fait que vous pensez cette notion-là? Alors certes, reprise par Jean-Pierre Dupuis, c'était cité tout à l'heure. Certes, Donna Haraway ou Anat Singh, qui ne sont pas allemandes.
Elles ne sont pas catastrophistes.
Non, bien sûr. Non, mais pense ces questions. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'inscrit dans votre univers intellectuel et des idées?
Je dois dire que mon livre est beaucoup plus inspiré par des auteurs américains.
Ah oui, c'est ça. J'attendais cette réponse. C'est bon.
Oui. Bien sûr, on a tous subi une histoire traumatisante en Europe et partout dans le monde par le colonialisme. Et en Allemagne, en particulier, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une histoire dévastante qui est les traumatismes se répète dans les générations et dans les générations. Et c'était des auteurs comme Günther Anders, par exemple, qui se sont occupés de cela. Et bien sûr, la bombe atomique a joué un rôle crucial et l'Allemagne et la guerre a joué un rôle crucial pour que...
Le fait que vous soyez d'ailleurs le lieu où aurait pu se dérouler une guerre mondiale en Europe.
Oui, on a mis en scène, les Allemands ont mis en scène la plus grande apocalypse de l'histoire humaine. Hein. C'est pas...
Catherine Larrère.
J'aurais une autre explication. Je remonterais un peu plus tôt. Je remonterais à la Révolution française et au fait que des gens comme Hegel ou comme Fichte, qui ne font, et ça sera l'explication de Marx, qui ne font pas eux la Révolution à ce moment-là en Allemagne, la pensent en philosophie et la pensent d'une façon globale, totale, avec l'espèce d'hubris, hein, de démesure des philosophes. Nous avons là, alors ils le pensent comme un mieux. Je pense que nous avons maintenant l'inverse, mais c'est toujours cette tentation d'identifier l'humanité à la fin du monde.
Merci beaucoup Catherine Larrère. Je rappelle que vous êtes autrice avec Raphaël Larrère du Pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous Fabien Scheidler d'avoir profité de votre passage par Paris pour pouvoir nous parler de la fin de la méga machine. Fabien Scheidler, donc sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement dans la collection Anthropocène au Seuil. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bail, Hugo Boursier et Imane Gilles. À la technique ce soir, Ludovic Auger. À la réalisation, Alexandre Manzanares.